VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, 10h temps universel, le président zimbabwéen Robert Mugabe a annoncé samedi qu'il pourrait révéler qui il aimerait voir lui succéder à la tête du pays. Le parti au pouvoir est profondément divisé au sujet du successeur de M. Mugabe. Emmerson Mnangagwa, l'actuel vice-président, fait partie des favoris, tout comme Grace Mugabe, l'épouse âgée de 52 ans du président. Le plus vieux chef d'État en exercice de la planète, déjà investi, candidat de la ZANU-PF, parti au pouvoir pour l'élection présidentielle de 2018, a toutefois précisé qu'il reviendrait ensuite à son parti de prendre la décision finale. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a accentué sa mainmise sur le gouvernement lors du récent remaniement opéré par son premier ministre Youssef Chahed, qui doit obtenir ce lundi la confiance du Parlement à l'approche d'échéances électorales. La nouvelle équipe compte des hommes réputés de confiance du président et consolide la présence de Nida Tounes, parti fondé en 2012 par le chef de l'État et qui avait porté Béji Caïd Essebsi à la victoire en 2014. Les autorités béninoises appellent à la mobilisation pour faire face au débordement de certains fleuves traversant le pays. C'est le cas du fleuve Niger, dont les eaux montent du fait de fortes pluies en amont au Niger et au Mali depuis le mois de juin. Timothée de Nangmaï a joint Inoussa Dankaokwe, le maire de la commune de Malamville dans le nord du Bénin.
Ce n'est pas seulement notre ville. Nous avons au moins 70 km de long par rapport au fleuve. Et des mesures sont déjà prises avec la plateforme de réduction des risques de catastrophes naturelles que nous avons déjà mise en place au niveau communal, au niveau du département de l'Alvorie. Le préfet lui-même a fait le déplacement pour s'enquérir de tout ce que nous avons eu à faire. Des équipes sont à pied d'œuvre et beaucoup de gens qui se situent sur les berges du fleuve sont délogés pour être relogés sur des sites très viabilisés. Les premiers soins sont apportés à tous ceux qui sont inondés déjà et ceux qui le seront, on a prévu de les mettre loin, loin du fleuve.
Inoussa Dankaokwe, le maire de la commune de Malanville dans le nord du Bénin.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le cap des 300 000 musulmans rohingyas réfugiés au Bangladesh où fuient les violences en Birmanie a été franchi en un peu plus de deux semaines, a annoncé l'ONU aujourd'hui. Tout a commencé avec des attaques de rebelles rohingyas contre la police birmane le 25 août qui ont déclenché une répression de l'armée. Bilan au moins 500 morts, la plupart rohingyas selon l'armée. L'ONU évoquant le double des morts. Les rebelles ont déclaré dimanche un cessez-le-feu unilatéral d'un mois, le gouvernement birman répondant toutefois qu'il ne négociait pas avec des terroristes. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a demandé aujourd'hui une enquête internationale sur l'usage excessif de la force par les autorités au Venezuela, estimant qu'il pourrait s'agir de crimes contre l'humanité. Ce n'est pas la première fois que le haut commissaire s'en prend au Venezuela. Fin août, il avait jugé à l'occasion de la publication à Genève d'un rapport accablant sur la situation des droits de l'homme que la démocratie était en danger de mort dans ce pays. Il avait alors reconnu qu'il y avait eu au Venezuela une érosion de la vie démocratique qui doit être à peine vivante si elle est encore en vie. La Corée du Nord a mis en garde aujourd'hui contre de nouvelles sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies en réaction aux tests nucléaires et tests de missiles de Pyongyang, disant que les États-Unis le paieraient cher. Un porte-parole officiel nord-coréen a qualifié d'illégal la proposition américaine pour des sanctions supplémentaires contre le régime de Kim Jong-un. Et puis l'ouragan Irma, ici aux États-Unis, rétrogradé en catégorie 1, continue de se déplacer sur la côte ouest de la Floride, mais continue de perdre de sa puissance, au point que le Centre américain des ouragans estime qu'il deviendra une tempête tropicale dans les prochaines heures. Après avoir balayé les Antilles où il a fait une trentaine de morts et des dégâts considérables, puis Cuba, l'ouragan Irma, qui a atteint dans sa course la catégorie 5, maximale sur l'échelle de Saffir-Simpson, a frappé dimanche l'ouest de la Floride. Des millions de foyers d'entreprises ont été privés d'électricité et des villes inondées, mais les autorités locales n'ont pas encore évalué en détail l'impact de son passage. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans un peu moins d'une heure pour un nouveau point de l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.